Bonjour Justine Audebrand.
Bonjour.
Vous êtes agrégée d'histoire, docteur en histoire médiévale, chercheuse associée au laboratoire de médiévistique occidentale de Paris et post-doctorante actuellement à l'Institut historique allemand à Paris. Vous avez publié tout récemment, il y a deux jours, par rapport au jour où nous enregistrons, c'est-à-dire le 26 mars, un article sur l'excellent site The Conversation, un autre avait été en février, article intitulé « Aimer ses frères et ses sœurs au Moyen-Âge, entre solidarité de genre, enjeux politiques et inégalité de genre », ce qu'on appelle, c'est un terme très intéressant, les relations adelphiques, qui vient du grec « adelphos », qui signifie né de la même matrice, et on préfère maintenant ce terme à frères et sœurs. C'est très intéressant du point de vue de l'historiographie. Alors aujourd'hui, nous allons présenter votre ouvrage publié chez Perrin il y a quelques semaines, que je montre à la caméra, « La vie des femmes au Moyen-Âge, une autre histoire, 6e, 11e siècle ». Je ne vais pas gâcher l'intérêt de cet échange, en disant d'emblée que vous avez produit un livre passionnant, très bien écrit, ce qui ne gâte rien, et surtout totalement décapant pour le lecteur non spécialiste que je suis, et pour qui la liste des noms de femmes ayant vécu à cette époque tient sur une demi-page recto, pour dire la vérité. Sans doute, je suis très ignorant, mais je crains, hélas, de ne pas être un cas tout à fait isolé. Alors, cela tient évidemment à un très long processus d'invisibilisation des femmes, à cette période sans doute, encore plus, mais en règle générale, dans tous les temps historiques, jusqu'à récemment d'ailleurs. On ne va pas faire d'anachronisme historique, mais... Donc, grâce à vous, madame, à votre travail de chercheuse et à ce livre, d'autres noms me sont désormais connus, et je tiens à vous en remercier. On va commencer par le début, si vous voulez bien. Alors, pardon pour ma question qui va vous sembler porteur... certainement, ou porter la marque d'une insondable ignorance, mais il s'agit bien de planter le cadre de votre livre. Alors, qu'appelle-t-on Moyen-Âge en histoire? Petit rappel de base, et plus précisément au Moyen-Âge, puisque c'est sur la couverture, on dit le Moyen-Âge. Hein. Est-ce que c'est la période historique qui est comprise dans les deux siècles que vous mentionnez sur la couverture du livre, c'est-à-dire 6e, 11e? Vous écrivez d'ailleurs page 11, qu'il n'y a pas, je vous cite, qu'il n'y a pas de date précise de séparation entre le haut Moyen-Âge et la suite de cette période. Alors, expliquez-nous d'abord, on est de camp à camp.
Oui, bien sûr. Alors, le Moyen-Âge, c'est la période, traditionnellement, en France, on considère que ça correspond à la période entre la fin officielle de l'Empire romain d'Occident en 476 et l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques en 1492. Alors, évidemment, ça, c'est la tradition française. En Italie ou en Allemagne, c'est un petit peu différent. Les dates précises sont différentes. Et pour les universitaires, on a tendance à découper le Moyen-Âge lui-même en tranches, puisque, bah, on le voit bien, c'est une très longue période de 1000 ans. Donc, en 1000 ans, il n'y a pas de stabilité, évidemment, les sociétés évoluent. Et donc, on dit en général qu'il y a trois Moyen-Âge, le haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge central et le bas Moyen-Âge, même s'il y a aussi d'autres divisions en deux Moyen-Âge, un premier ou un second Moyen-Âge, selon les historiens. Et donc, on considère en général que la première moitié du Moyen-Âge peut être étudiée comme un tout pour des raisons qui sont à la fois des raisons politiques, etc., mais qui sont aussi des raisons des sources. Puisque c'est vrai qu'il y a, disons, à partir de la fin du XIe siècle et surtout au XIIe, une explosion documentaire qu'on n'a pas du tout avant. Alors, on a des sources, on a des choses à évoquer, mais il y a vraiment beaucoup plus de sources, disons, à partir du XIIe siècle. Et c'est en général pour ça que même dans les divisions au sein des universités, on a, disons, ceux qui travaillent avant le XIIe siècle et ceux qui travaillent après, même si, bien sûr, c'est artificiel. Parfois, d'autres disent que la rupture est, disons, autour de l'an 1000, mais globalement, on a une espèce d'unité qui sont les 6 siècles sur lesquels porte le livre, disons, qui, pour moi, font sens du point de vue de l'histoire des femmes.
Alors, c'est important que vous ayez précisé cela, Madame Audebrand, parce que on voit bien, et vous le dites à un moment à propos des sources documentaires, vous dites que vous avez aussi eu recours, compte tenu un peu du manque de sources écrites, à des éléments, j'allais dire, différents, des iconographies, choses comme ça, ce qui permettent aussi de traiter votre sujet. Alors, je vais vous citer encore page 10 dans votre introduction. Vous dites « Les femmes du haut Moyen-Âge peuvent donc être puissantes, mais vivent dans des sociétés patriarcales, où l'autorité reste masculine. Ces sociétés possèdent des caractéristiques différentes de celles de l'Antiquité ou de la seconde moitié du Moyen-Âge dont on vient de parler. Et le rôle des femmes peut y être plus important qu'à d'autres périodes, mais il reste cependant largement méconnu. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est de quelles femmes parlez-vous ici, quand vous dites le rôle des femmes, est-ce qu'elles appartiennent à... On va penser à des catégories sociales pour rester dans un terme un peu neutre, d'un strict, là aussi point de vue de l'historiographie, on verra de quelles sources dispose-t-on. Mais quand vous dites les femmes peuvent être puissantes, alors on va en voir plein de femmes, tant mieux hein, dans le livre. Mais c'est quelles femmes?
Alors là aussi, ça tient à la difficulté des sources. C'est très difficile d'avoir accès à des sources pour ces périodes-là sur les femmes, disons, des catégories sociales inférieures.
C'est ça. Donc,
évidemment, celles qui peuvent être puissantes, ce sont des femmes de l'aristocratie, de la royauté, vraiment des femmes des catégories sociales supérieures. Ce qui ne veut pas dire que déjà qu'on ne connaît rien sur celles d'en dessous, on connaît un peu, mais ce qui ne veut pas dire non plus que celles des autres catégories sociales n'ont aucun rôle, sont purement soumises aux hommes, etc. Donc évidemment, le focus du livre est sur les femmes de l'aristocratie, tout simplement parce que c'est celle qu'on peut cerner, c'est celle qu'on peut voir, même si j'essaye à certains moments de décaler la focale. Mais voilà, ce sont sur ces femmes-là qu'on peut vraiment tenir un discours qui, effectivement, est parfois... Enfin, que j'ai essayé de tourner différemment pour montrer que l'histoire des femmes, c'est pas non plus juste une progression linéaire, et que dans cette partie du Moyen-Âge, il y avait des catégories, enfin des conditions socio-économiques qui, dans certaines circonstances, pouvaient laisser la place à un pouvoir pour certaines de ces femmes, ce qui est beaucoup plus le cas qu'à d'autres périodes, que ce soit dans l'Antiquité ou même encore au 19e siècle. Donc évidemment, il faut pas caricaturer, mais il y a des marges de manœuvre dans ces sociétés-là qui sont possibles.
Alors, vous nous expliquez d'emblée qu'au-delà de la courte liste de noms de femmes qui nous viennent à l'esprit, on évoque donc quand même des femmes comme Jeanne d'Arc, Aliénor d'Aquitaine, Christine de Pisan ou encore Hildegarde de Bingen, encore que son nom a été redécouvert. Maintenant, ça fait quand même le temps passe, mais il y a une quarantaine d'années, mais à travers un biais de, j'allais dire, un peu du New Age et de la méditation. Enfin, voilà, hein. c'est assez intéressant d'ailleurs. Hein. Donc, vous dites, il y a un nombre important de femmes dans des fonctions qui ne sont pas mineures. Alors, on vient d'en parler, des femmes de l'aristocratie. Évidemment, on peut pas considérer qu'il n'y a pas de bourgeoises. Ça n'existe pas à l'époque, au sens de ce qu'on va connaître, évidemment, dans l'histoire moderne. Hein, voilà. On va y revenir, mais est-ce que, quand elles sont reines, est-ce qu'elles sont réellement régnantes? Alors, il y a des régentes, on va y venir. Vous dites qu'il peut y avoir aussi des mécanismes de remplacement. Il y a un hauton, il y a beaucoup d'hautons. Hein. Il y a un hauton célibataire. Donc, il y a peut-être eu plusieurs d'ailleurs. Là, on est en Germanie, hein, voilà. Hein. Et il se fait remplacer par sa sœur. Enfin, oui et non. Enfin, sa sœur a des fonctions parfois protocolaires, c'est ça.
Tout à fait. Et alors, il n'y a pas de règne régnante. On a peut-être une vague mention d'un an au 7e siècle en Angleterre, mais c'est très, très vague et les sources sont assez tardives, donc c'est assez difficile à dire. Donc, on n'a pas de règne qui règne en leur nom propre. En revanche, on a ces phénomènes de régence. Alors, le terme est anachronique puisque c'est un terme qui se développe, enfin, qui est conceptualisé en tant que tel plutôt à la fin du Moyen-Âge. Mais on a des femmes qui exercent des fonctions en l'absence du roi, puisque bah, justement, le cas de ce hauton célibataire, lorsqu'il doit se rendre en Italie et qu'il faut quelqu'un pour gérer les affaires en Germanie, qu'il n'a pas de femme, dans ce cas-là, il peut laisser à sa sœur. Donc ça peut être la reine lorsque le souverain a une épouse, et ça on le voit très régulièrement, notamment au 9e et plutôt même au 10e siècle, où on a tout un tas de situations de régence, ou parfois ça peut être, lorsqu'il n'est pas marié, mais c'est assez rare, une autre femme de l'entourage, dans le cas de ce hauton, hauton 3, à l'occasion c'est sa sœur, une fois pendant 2 ans c'est sa tante qui est abbesse. Donc non, on n'a pas de situation de femme régnante, ça ce n'est pas possible à ces couches-là du pouvoir. En revanche, aux échelons inférieurs, à partir du 10e siècle, et disons pour la période qu'on appelle féodale, donc au 10e, 12e siècle, on a des cas de femmes qui, sans être reines, sont seigneuresses, Les sources, d'ailleurs, les appellent Dominae. Donc, Dominae, c'est l'équivalent du Dominus, du Seigneur. Donc, c'est vraiment la seigneuresse qui règne, enfin, qui, non, pas qui règne, mais qui exerce une forme de pouvoir en leur nom propre.
Et qui peut donc donner, en quelque sorte, des ordres, je ne sais pas si l'expression est la bonne, mais à des conseillers du roi ou à des cadres intermédiaires du régime qui vont obéir. Alors, à ce moment-là,
Oui, notamment parce qu'en fait, on est dans des sociétés où le statut social compte davantage que le genre. D'accord, et ces femmes qui sont de la très haute aristocratie, en fait, avant d'être femmes, elles sont aristocrates.
Ça, c'est passionnant.
Et c'est ça qui compte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour toute la période médiévale, pas seulement pour la première moitié du Moyen-Âge. Le statut social prime. Alors, le premier statut social qui prime, c'est est-ce qu'on est libre ou non libre. Ça, c'est fondamental, en fait, dans ces sociétés-là. Ouais. Lorsqu'on est non libre, de toute façon, on n'a pas de droit de commandement.
Ça, c'est un héritage de la tradition romaine.
Alors, le statut précis des libres et des non libres n'est pas le même que dans la période romaine, mais il y a énormément de débats historiographiques assez complexes, en fait, sur le statut, comment on passe de l'esclave antique au serf médiéval, c'est assez complexe. Donc, il y a bien sûr des évolutions, mais disons que c'est quelque chose qui traverse ces sociétés. Et donc là, ça, c'est fondamental. Est-ce qu'on est libre ou non libre? Et c'est ça qui détermine la condition avant de savoir si c'est un homme ou une femme. Et ensuite, au sein des libres, il y a une vraie différence entre, disons, le paysan ou la paysanne lambda, les gens des classes sociales inférieures et les gens des classes sociales supérieures qui ont des pouvoirs de commandement, qu'ils soient hommes ou femmes. Alors, bien sûr, différencier selon les hommes et les femmes, prioritairement aux hommes et aux femmes uniquement en l'absence d'hommes ou dans des circonstances particulières, mais il n'y a pas de discours à ce moment-là vraiment spécifique pour dire les femmes n'ont aucun droit à un quelconque pouvoir. Puisque, avant d'être femme, elles sont aristocrates, et en tant qu'aristocrates, elles ont par nature, dans cette vision des choses médiévales, une forme de commandement naturel, en quelque sorte.
Alors, pour la petite histoire, c'est un clin d'œil. En 2007, à la fin de l'année 2007, Nicolas Sarkozy, nouvellement élu président de la République, s'est retrouvé sans épouse, puisque Madame Cécilia Sarkozy avait quitté le domicile conjugal. Et il a emmené Rachida Dati, qui était garde des Sceaux, dans un voyage d'État officiel au Maroc. Et elle était présentée comme une sorte de première femme de substitution, de première dame de substitution. C'est assez cocasse quand même. Je suis sûr que c'était l'immense connaissance historique de Nicolas Sarkozy qui l'avait fait reprendre
d'imiter au ton 3 avec sa sœur.
C'est exactement, ça c'est sûr. Voilà. Bon, fermons la parenthèse. Donc, entre l'an 700 et l'an 900, quand on vous lit, on mesure, page 16, ce que vous dites, le monde chrétien occidental est en perpétuel mouvement. Et s'étend de plus en plus au fil des siècles. C'est un monde ouvert, dynamique et divers, mais dans lequel une culture commune prédomine. Alors, j'ai aussi vu comment les femmes ne sont pas toutes traitées de la même manière dans cette mosaïque, en réalité. Dans certains royaumes, elles ont plus de reconnaissance et dans d'autres moins. Alors, c'est quoi cette culture commune qui prédomine et en particulier par rapport et pourquoi il y a ce statut différencié des femmes? Est-ce qu'on sait pourquoi, par exemple, les Lombards n'acceptent pas que les femmes exercent des responsabilités indépendamment du machisme historique des Italiens? Mais bon.
Oui, alors c'est évidemment probablement pas la bonne.
Non, mais vous pointez les Lombards, vous dites les Lombards, oui.
Alors c'est le droit lombard qui est, disons, considéré comme étant plus restrictif que d'autres droits dits barbares. Mais en réalité, dans ces sociétés, le droit n'est pas tout. Nous, on vit dans des sociétés où le droit s'applique et nul n'est censé ignorer la loi. Dans les sociétés médiévales, et en particulier celles de la première moitié du Moyen-Âge, le droit est une option parmi d'autres. C'est-à-dire que le droit sert à régler des conflits, mais qu'on peut aussi s'arranger en dehors des prédispositions légales et faire un peu autrement, bien sûr, dans le respect des conventions sociales.
D'accord.
Et donc, le droit est un indicateur. Et donc, de fait, le droit lombard est particulièrement restrictif. Il parle beaucoup des biens des femmes, des biens des veuves. Mais il est en même temps paradoxal, puisqu'il reconnaît l'importance de ces biens des veuves et la nécessité de les contrôler. Donc, c'est quelque chose d'assez paradoxal. On ne s'explique pas forcément en détail pourquoi ce droit lombard est particulièrement focalisé sur ces questions-là. C'est un droit peut-être qui émerge peut-être un tout petit peu plus tard que d'autres, par exemple, mais c'est assez difficile. Et de fait, on voit des distinctions assez claires entre le droit lombard et le droit, par exemple, en Angleterre, qui a des dispositions différentes. Mais c'est aussi parce que je traite de l'intégralité de l'Europe et donc il y a évidemment des spécificités régionales qu'on ne s'explique pas toujours, mais qui existent. Et quant à cette culture commune, c'est la culture du christianisme, qui est lui aussi divers, et notamment au début de la période, entre différentes catégories de chrétiens, ceux qui deviendront plus tard les catholiques, ceux qu'on appelle les Ariens, avec un I et pas un Y, qui sont l'arianisme, qui est une version différente, qui sont aussi des questions,
identitaires. À laquelle appartenait Clovis, je crois.
Non, Clovis non. C'était disons des contemporains de Clovis, la plupart étaient chrétiens ariens. Oui. Et lui est un des premiers à se convertir justement à la version nicéenne qui deviendra plus tard le
catholique. Oui, mais avant de se convertir, alors il a pas d'appartenance au christianisme.
Non, a priori c'est un païen. Il fait partie des religions anciennes qu'on connaît d'ailleurs très mal pour cette période. Et donc le christianisme joue un vecteur d'unification dans ces peuples puisque le christianisme véhicule avec lui un ensemble de valeurs et y compris de valeurs culturelles qui vont au-delà de l'aspect religieux, notamment la place de l'écrit. On connaît très très mal les sociétés pré-chrétiennes d'Europe, tout simplement parce que ce sont des sociétés qui pratiquent assez peu l'écrit. Quand on pense par exemple aux Scandinaves, il y a des traces, il y a des runes, mais c'est un rapport à l'écrit qui est très différent, alors que le christianisme est une religion du livre, bien sûr. Et donc le livre y tient une place importante, et on a donc un ensemble de sources écrites beaucoup plus importantes qu'en dehors de ces espaces-là. Et donc le christianisme joue un rôle de lien culturel entre ces différents mondes. On se reconnaît appartenir à un monde chrétien qui, sans être unifié, a quand même des valeurs spécifiques. Et puis, cette place du livre donne aussi une place particulière à la langue, qui est le latin, ce qui fait qu'un Irlandais qui écrit à un Italien au IXe siècle, ils vont s'écrire en latin. Ils n'ont évidemment pas la même langue maternelle, mais ils ont une lingua franca, ils ont une langue partagée qui leur permet justement d'échanger, ce qui est un facteur d'unification de ces différentes sociétés.
Alors, il se passe... un événement à la fin plutôt d'ailleurs de notre période, c'est la réforme grégorienne, donc du nom du pape Grégoire VII, qui règne donc finalement pas très longtemps, 12 ans, de 1073 à 1085. Alors vous dites que cette réforme, en fait, elle a été engagée avant. Alors Grégorien, on connaît à la fois pour le chant, on connaît pour le calendrier, donc ça a été un grand pape en termes de transformation, cette réforme grégorienne, après on verra dans le détail, mais est-ce qu'elle a influencé le statut des femmes dans la société médiévale, en quoi et pourquoi?
Oui et non. Alors, il faut aussi voir que l'insistance sur la réforme grégorienne, c'est aussi dû à des mouvements historiographiques récents, où on a beaucoup parlé de réforme grégorienne ces dernières années, donc sur ce pape Grégoire VII, mais évidemment, ça commence avant. Un des buts de cette grande période de réforme qui commence, disons, au milieu du XIe siècle et qui perdure après, c'est de différencier plus clairement le clergé des laïcs. Et donc de mettre une séparation beaucoup plus stricte entre les membres du clergé et les laïcs. Et les membres du clergé, disons, séculier, celui qui encadre la société, donc les prêtres, les évêques, ne sont par définition que des hommes. Depuis les débuts du christianisme, il y a eu un certain nombre de débats, mais ce sont exclusivement des hommes. Et la réforme grégorienne renforce leur éloignement vis-à-vis des femmes.
D'accord.
C'est-à-dire que avant, il y avait une forme de, si ce n'est de tolérance, du moins de possibilité pour certains d'avoir été mariés avant leur ordination, ce qui n'est plus possible à partir du début du XIIe siècle. Et donc, il y a une catégorisation beaucoup plus forte entre les membres du clergé éloignés des femmes qui doivent vivre dans la continence absolue, n'avoir jamais été mariés avant leur ordination à partir de la réforme grégorienne, et les membres du clergé, les membres du laïcat, pardon, les laïcs, qui sont destinés à la reproduction sociale, donc à la reproduction charnelle, biologique. Et donc, ce mouvement, qui n'est donc pas prioritairement au départ un mouvement portant sur les statuts respectifs des hommes et des femmes, mais vraiment sur la distinction entre clair et laïque. Mais il a bien sûr une incidence sur le statut des femmes, puisque les femmes, dans cette vision des choses, sont vouées exclusivement, ou prioritairement, disons, pas exclusivement, mais prioritairement, à la reproduction sociale, et donc au côté laïque, qui est considéré comme moins important et moins, moins pur que le côté que des membres du clergé. Donc ça a une incidence, si ce n'est forcément sur les pratiques immédiatement, puisque c'est un mouvement de pensée qui a ensuite des effets sur les pratiques. Disons qu'il y a une reconfiguration de la manière de penser la place des femmes au sein de l'Église et plus largement au sein de la société. Ce qui est aussi, ce qui explique que c'est un des points de fin finalement du livre, au milieu de beaucoup d'autres, hein, au milieu aussi de changements économiques qui sont indépendants de la réforme grégorienne, mais qui participent à une reconfiguration, disons, de la manière de penser les femmes au sein de la société et de l'Église en particulier.
Alors, on peut s'attarder sur des pères de l'Église, hein, comme Augustin, Jérôme, hein, vous dites, hein, qui s'appuient exclusivement, presque exclusivement, sur la Bible. La Bible, c'est vraiment le référent, le référentiel absolu. Vous disiez, on est vraiment en présence de religion du livre. Hein, et donc, vous dites que, en fait, tout procède en quelque sorte de la Bible, mais il y a en même temps une tradition chrétienne qui est relativement ambivalente. C'est là qu'il y a une sorte de subtilité. Et en particulier, vous dites, en lisant la pensée chrétienne, on constate que la pensée chrétienne a une vision des femmes qui est bien moins caricaturale que le rapport de l'Église au féminin. Est-ce que je dis bien les choses ?
Alors oui, on peut le dire comme ça, mais disons que évidemment la Bible est au fondement d'une société chrétienne, hein, c'est par définition, mais que la Bible c'est un texte, mais qui est interprété, réinterprété, et l'exégèse, donc le commentaire du texte tient une place extrêmement importante dans les savoirs médiévaux. Et donc la Bible est connue bien sûr dans le texte, hein, les lettrés la lisent, l'apprennent, la connaissent presque par cœur, mais elle est aussi interprétée à travers les pensées des pères de l'Église. Et ces pères de l'Église sont aussi des hommes de leur temps, hein, du quatrième siècle, qui ont eux-mêmes des rapports différents aux femmes. Jérôme, par exemple, est entouré de nombreuses femmes, il correspond beaucoup avec des femmes, il a quand même des liens assez étroits avec elles. Et Augustin est un penseur très très prolifique, ce qui fait que chez Augustin, on peut dire tout et son contraire, puisqu'il a écrit pendant des décennies, et que sa pensée a elle-même évolué, et donc c'est assez facile, dans la première moitié du Moyen-Âge, de dire, on peut avoir une idée chez Augustin, mais on peut défendre parfois une idée différente, à partir d'Augustin également, mais 30 ans plus tard de sa vie. Et donc, ce sont ces hommes-là qui définissent la manière dont on interprète la Bible, et ils essayent de résoudre différentes contradictions qu'on a au sein du texte biblique lui-même, qui lui-même procède de plusieurs siècles d'écriture. Et un des éléments intéressants, c'est la manière dont Augustin essaye de résoudre une contradiction qui est dans la Genèse et qui est assez peu connue, puisque dans la Genèse, on connaît la création, bien sûr, d'Ève à partir de la côte d'Adam, donc qui place immédiatement Ève en position d'infériorité vis-à-vis d'Adam, elle n'est qu'une émanation de l'homme. En fait, il y a un autre passage de la Genèse qui ne dit pas ça, qui dit que Dieu créa l'homme et la femme en même temps et à son image. Et c'est un verset qui est beaucoup moins connu, alors qui est aussi beaucoup moins développé que le passage de la création d'Adam et Ève. Et ça pose un problème puisque c'est une contradiction. On a d'un côté le texte qui dit que Ève est une émanation d'Adam et l'autre qui met une forme d'égalité. Et donc, le Moyen-Âge résout cela via la pensée d'Augustin, puisque Augustin explique qu'en fait, ça correspond à deux états de la création, c'est-à-dire que dans le passage où Ève est créée à partir de la côte d'Adam, c'est la création du corps, donc du corps sexué, tandis que d'autres passages, c'est la création de l'âme. La création de l'âme qui est donc, si ce n'est égalitaire, mais qui est l'homme, ce qu'il appelle l'homme intérieur, n'est pas sexué. Et donc ça, c'est une ambivalence qu'on retrouve dans tout le Moyen-Âge avec l'idée que, bien sûr, la femme est inférieure à l'homme, mais qu'elle a un rôle malgré tout à jouer. Et puis d'autres ambivalences majeures de la Bible quant aux figures féminines, c'est bien sûr la figure de Ève, de Marie-Madeleine, mais toutes ces femmes-là sont rachetées par la figure de la Vierge Marie, qui est la figure par excellence positive de la femme dans la Bible. Et donc tout cela existe au Moyen-Âge, ces ambivalences, en fonction de ce qu'un auteur veut dire, il va regarder plus d'un côté ou de l'autre. Et tout cela est aussi réinterprété à travers la vie des saintes femmes et des saints hommes de la période, qui sont autant de modèles à suivre et qui sont des modèles, disons, parfois plus contemporains que ceux de la Bible. Donc on a évidemment une grande ambivalence de cette tradition biblique médiévale qu'il ne faut pas du tout caricaturer, comme on le voit encore parfois, à la femme c'est mal et l'homme c'est bien. Beaucoup plus complexe que ça dans les textes.
Il y a une phrase qui a retenu mon attention. Vous dites, toujours dans l'introduction, on va avancer, hein, mais que le genre médiéval n'est pas aussi binaire qu'aujourd'hui.
Alors ça, je me suis beaucoup appuyée sur les travaux de Clovis Maillet, qui a écrit un très beau livre sur ce qu'il appelle les saintes trans, donc c'est-à-dire des femmes, des personnes nées femmes, mais qui ont vécu sous une identité masculine au Moyen-Âge.
D'accord.
Et il montre bien qu'en fait, on a un continuum de genre qui n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui, pour le dire un peu plus caricaturalement. Aujourd'hui, j'ai les mêmes droits que mon petit frère. Du point de vue juridique, il n'y a aucune différence entre mon frère et moi. Ce qui ne veut pas dire que dans la réalité, il n'y en a pas, mais d'un point de vue juridique, il n'y en a pas. Au Moyen-Âge, il y en a, évidemment, et le masculin est un pôle positif. Mais, et le féminin, un pôle négatif. Mais les individus peuvent bouger, en fait, sur cette ligne. C'est-à-dire qu'une femme, par exemple, qui se comporte selon des normes considérées comme viriles, ce n'est pas forcément négatif. Aujourd'hui, si on dit d'une femme qu'elle se comporte comme un homme, c'est un peu ambivalent, ce n'est pas forcément positif. Or, au Moyen-Âge, si on dit d'une femme qu'elle se comporte comme un homme, qu'elle agit virilement ou irrilitaire, l'adjectif en latin qu'on trouve souvent dans les textes, c'est assez positif, puisque ça montre qu'une femme peut s'élever de son statut de femme pour des actions qui sont considérées comme positives. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que ce sont qu'elles deviennent des hommes, qu'elles sont considérées comme des hommes sociaux dans ce genre de situation, mais ça veut dire que on peut évoluer, disons, sur ce schéma du masculin et du féminin. Et à l'inverse, un homme qui se comporte comme femme, qui se comporte de manière féminine, est dévalorisé, démasculinisé et moqué. Donc on a une forme de si ce n'est de fluidité, du moins de mobilité sur les chaises du genre, avec des femmes qui peuvent se comporter virilement, ce qui est bien vu, et des hommes fémininement, si on veut, et c'est mal vu. Donc c'est en ça que le genre est peut-être moins binaire, ou du moins conceptualisé différemment dans les sociétés médiévales.
Mais à de rares exceptions près qu'on va connaître, mais alors là pour le coup plutôt à la fin du Moyen-Âge, comme Jeanne d'Arc, elles ne sont pas autorisées à aller à l'ost et à faire la guerre, par exemple.
Alors ça, c'est assez compliqué. J'ai un chapitre dans
oui, vous l'avez dit, sur la guerre. Ouais. Sur la guerre.
Ouais. Ouais. Et ça, je pense que c'est une des choses qui va de plus changer dans les prochaines années, parce qu'il y a beaucoup de découvertes archéologiques. Ouais. A priori, il y a très peu de femmes qui vont à la guerre, mais il semblerait, et je parle avec tous les conditionnels possibles, notamment en Angleterre, que quelques femmes aient pu participer à des combats. Alors, est-ce qu'elles étaient habillées en homme ou en femme ? Ce n'est pas très clair. Il me semble qu'il y a un cas où on a une femme qui est enterrée en habit masculin et qui semble avoir participé, enfin, qui a des blessures de guerre, qui a porté des armes. Mais ce qu'on voit dans une tombe n'est pas le strict reflet de ce qui se passe dans la réalité. Donc, a priori, non, les armées sont très majoritairement masculines, mais il est possible, du moins, il n'est pas impossible, que dans certaines circonstances très précises, des femmes aient pu participer à la guerre. Mais ça reste tout à fait marginal.
Alors, il y a un mot, un terme, si je puis dire, qui est une sorte de fil rouge dans tout votre livre, c'est l'éducation des jeunes filles. On comprend que tout procède, en quelque sorte, de l'éducation des jeunes filles, alors à différents niveaux. Hein. Alors, on a vu à peu près de quelles jeunes filles on parle, en termes de réception de l'éducation, et on voit que les savoirs sont très rangés, très très rangé, très genré, voilà, pardon pour la dyslexie, les savoirs sont très genrés, dites-vous, mais même les plus pauvres apprennent des tâches particulières, comme par exemple préparer le textile. Il y a une forme de formation aux différentes activités en fonction des origines, exactement. Est-ce que là, à votre connaissance, c'est un moment un peu original, nouveau, l'éducation des jeunes filles par rapport à la période antérieure, et puis par rapport à ce que j'ai cru comprendre, c'est le dernier chapitre, et après, on peut peut-être considérer que ça a rétrogradé, hein, le statut des femmes. En tous les cas, il n'y a pas eu forcément de poursuite d'une progression. Est-ce que l'éducation des jeunes filles, parce que ça, c'est étonnant quand même.
Alors, vis-à-vis de la période antique, je ne pourrais pas vous répondre parce que ce n'est vraiment pas ce que je connais le mieux. Mais de fait, on considère, mais en fait, sur toute la période médiévale, pas sur, uniquement sur la première moitié, que les femmes, toujours de l'aristocratie, sont éduquées. Pas toutes de la même manière, mais il y a une forme d'éducation qui est parfois genrée et qui n'est parfois pas tant que ça. On sait par exemple que les filles de Charlemagne savaient monter à cheval. C'est vrai que monter à cheval, c'est quelque chose qu'on associe plutôt au masculin, mais elles savaient monter à cheval, donc c'est bien qu'on leur a appris. Mais disons que les femmes sont éduquées parce que, les femmes de l'aristocratie, elles doivent ensuite transmettre des choses à leurs propres enfants. Or, pour qu'une femme puisse enseigner les rudiments de la Bible à son fils, il faut qu'elle-même ait un certain nombre de savoirs qu'elle soit apte à transmettre. Et donc, l'éducation des femmes qui vont se marier, leur sert à gérer la maisonnée, ce qui suppose aussi des compétences alors qu'on reconstitue très mal pour ces périodes-là, mais qu'on peut voir pour d'autres périodes, notamment la fin du Moyen-Âge, ce qui suppose des compétences mathématiques basiques, hein, pour savoir dénombrer ce qu'il y a dans le garde-manger, il faut savoir un peu compter, même si on ne sait pas écrire, ce qui suppose pour certaines des compétences, si ce n'est littéraire, du moins de maîtrise de l'écriture ou de contrôle de l'écriture, c'est-à-dire d'avoir un secrétaire qui écrit pour soi et d'être capable de vérifier au moins ce que le secrétaire a écrit. Et donc ça, c'est une manière de les former finalement à leur rôle, qui est donc le rôle de gestionnaire de la maison. Et puis ensuite, on a tout ce qui concerne les femmes qui sont au monastère. Et là aussi, il faut sortir d'une vision très, qui nous vient des Lumières, hein, de Diderot, la religieuse, l'idée que ces femmes en religion sont forcément persécutées, malheureuses, etc. Alors, évidemment, il y en a. Hein. Il y en a qui sont forcées, qui sont contraintes. Mais les monastères féminins sont aussi des lieux d'éducation, des lieux de copies de manuscrits, des lieux de création de nouvelles œuvres, au même titre que dans les monastères masculins, d'ailleurs. Et ce qui fait que là, on a un certain nombre de femmes qui sont très éduquées. Et même au tout début de la période, vraiment au 7e siècle, des monastères féminins au sein duquel sont éduqués des hommes. Notamment en Angleterre, le monastère de Whitby, qui est un très grand monastère.
On va y venir sur Whitby, oui, parce que voilà. C'est passionnant.
Les hommes, ils sont éduqués. Il faut sortir cette vision caricaturale sur l'éducation.
Vous évoquez la figure de Benoît et de Scolastique. La règle de Saint-Benoît, mais l'abbaye scolastique fonctionne véritablement comme presque un miroir de ce qui va se faire dans les abbayes masculines. Alors justement, la transition est toute trouvée. Dans les monastères féminins, on comprend que ça joue un rôle essentiel. J'ai découvert que on y rentrait, on pouvait en ressortir, et puis on pouvait y revenir, en particulier pour les veuves. C'est ça,
hein ? Tout à fait.
Voilà. Mm-hmm. Mais alors, il n'y avait pas d'enfants quand même là, dans les monastères.
Alors, il y a des enfants qui ne sont pas des enfants des femmes, quoique au tout début de la période, on peut avoir des femmes qui rentrent, des jeunes veuves en fait, qui rentrent au monastère avec leurs enfants, parce que c'est aussi pour des raisons économiques. Et on a en fait des enfants, on a très bien vu ça dans les fouilles du monastère de Hamage, dans le Nord, qui est un monastère féminin qui a été très bien fouillé, où on a retrouvé des squelettes d'enfants. Alors, pas de tout petits enfants, hein, pas des nourrissons, mais disons d'enfants de 7-8 ans, qui sont en général les enfants qui sont éduqués ici. Il peut y avoir des garçons dans de très rares cas, mais ce sont en général des filles, mais il peut y avoir des garçons qui sont éduqués, soit parce que les monastères étant des lieux de savoir, c'est possible pour un aristocrate en fait de mettre sa fille au monastère pour qu'elle apprenne à lire, qu'elle apprenne les rudiments de l'écriture. Et puis ensuite, plusieurs options. Si le père trouve un bon parti, on sort la fille du monastère à l'adolescence pour qu'elle puisse se marier. Ou alors, parfois, elles peuvent y rester pendant un certain temps, avec évidemment tout un tas de situations intermédiaires, de prolongement de la durée au sein du monastère ou non. Et ensuite, effectivement, les veuves peuvent y retourner dans certaines circonstances, pas la majorité. Ça, c'est la thèse d'Emmanuel Santinelli qui l'a bien montré. Une partie des veuves reste dans le monde sans tuteur particulier, ou leur fils ou leur frère, mais une partie rentre au monastère. Et ce statut est particulièrement valorisé par l'Église, qui considère qu'une veuve qui voue son veuvage à Dieu est une veuve qu'il faut valoriser et qu'il faut mettre en avant. Et c'est pour ça aussi qu'on a tout un tas de modèles de saintes femmes qui, une fois veuves, rentrent au monastère. C'est aussi une manière pour l'Église de promouvoir ce modèle qui lui convient tout particulièrement. Donc oui, les monastères sont des lieux aussi d'éducation où l'on peut avoir des très jeunes femmes, voire des filles qui viennent suivre une éducation en quelque sorte.
Alors, vos chapitres, ils sont extrêmement didactiques parce que à chaque fois, vous nous présentez une figure féminine. Hein, donc, la reine Mathilde, ça, c'est pour venir gérer la maisonnée et les biens. Duoda, on va en parler sur mère et maternité. Des femmes médiatrices. Rictrude, ou les tribulations familiales d'une sainte au 7e siècle. Au travail, alors, on va y revenir parce que c'est la seule fois où on n'a pas un nom là hein, à cette paysanne, elle est anonyme. Hein, mais
oui.
Alors, chapitre sur la religion, tout à fait passionnant. Je disais que on allait parler de Whitby. C'est comme ça qu'on dit Whitby. Hein.
Je suis pas sûr,
ça existe
comme ça. Mais
voilà. ça existe toujours. Hein, ça existe.
Oui,
enfin, moi, j'ai c'est sur la côte de la mer du Nord, au nord du York là. Hein, voilà. Hein.
Oui. C'est là que se passe Dracula, une partie de Dracula, si mes souvenirs sont bons.
Alors moi, j'en étais resté à du côté des Carpates, mais je savais pas qu'il y en avait aussi là. Alors quand même, bon.
Non, mais il me semble que chez Bram Stoker, il y a une partie d'histoire.
Ah, bon, d'accord. Bon, là, oui. Je vous fais confiance. Donc elle s'appelle Hilde et Elfled, je ne sais pas si je prononce bien.
Elfled, oui.
Ouais, Elfled. Après, il y a Birka, qui est une femme en guerre, c'était une guerrière viking. Théo de l'Inde, une très glorieuse reine lombarde. Et puis, ça se termine, ça c'est très touchant sur les femmes vulnérables, sur la plainte de Nortilde au concile d'Attigny. Il y a tout un chapitre sur les violences faites aux femmes. Et on termine par Christina de Marquiat. Là, on est déjà un peu dans l'après. Hein. Alors, sur par exemple la mère et la maternité, l'équivalent de la déesse antique Hestia, hein, qui est en charge du foyer. Pas mère et maternité, sur la maisonnée. Je vais trop vite. Cette Mathilde, là, la reine Mathilde, elle est de la dynastie ottonienne hein, qui règne sur la Germanie, hein, au moins un siècle. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisie pour illustrer le propos sur la gestion de la maisonnée?
Alors, je l'ai choisi déjà parce qu'il y a une réflexion à l'échelle du livre, en quelque sorte. J'ai voulu des exemples qui soient divers au plan géographique. C'est pour ça qu'il y a un peu d'Angleterre, un peu d'Italie, un peu de Montfranc, un peu de Germanie. Et divers aussi au plan chronologique. Donc, de Théo de l'Inde jusqu'à la reine Mathilde au Xe siècle. Donc, disons qu'il a fallu ensuite arbitrer à ce niveau-là. Donc, c'est aussi des choix à l'échelle du livre. Mathilde, j'ai utilisé parce que c'est une femme qu'on connaît très bien, en fait. Bon, c'est une reine. Et en plus de ça, elle a été considérée comme sainte après sa mort et comme sainte fondatrice de la dynastie. Ce qui fait qu'on a un certain nombre de textes qui permettent de la connaître. Et donc, à part pour la fameuse paysanne et puis pour la tombe de Birka, où c'est plus archéologique, j'ai essayé de mettre l'accent sur des femmes, disons, sur lesquelles j'avais assez de matériaux pour pouvoir développer un petit peu exemple sur plusieurs...
En chair et en os.
Tout à fait. Donc, et la reine Mathilde, c'est un exemple intéressant puisqu'on peut la voir à différentes étapes de sa vie, ce qui me paraissait bien pour ouvrir le livre, en fait. On la voit justement jeune fille au monastère. Elle est élevée au monastère dont sa grand-mère est abbesse, après être devenue abbesse au moment de son veuvage. Le futur roi Henri, selon la légende, la voit et coup de foudre, veut l'enlever, mais en fait, ça se passe un petit peu plus différemment, enfin c'est un peu plus complexe que ça, mais un beau mariage, il devient roi, ils ont de beaux enfants, donc il y a toute la légende hagiographique. Et puis au moment de son veuvage, les textes racontent, sont des textes ultérieurs, mais des textes contemporains permettent de le voir aussi un petit peu, qu'elle est en conflit avec ses deux fils. Enfin, elle a trois fils, mais disons les deux aînés.
C'est l'histoire d'Aliénor.
C'est un peu l'histoire d'Aliénor aussi, oui, tout à fait. Elle est en conflit avec ses fils, notamment au niveau de son douaire, c'est-à-dire des biens qu'elle possède en propre après la mort de son mari. Puisque, selon la légende, toujours, elle aurait dilapidé ses biens en faveur de l'Église. Ce qui, pour l'Église, est évidemment positif. Hein. L'Église pousse les veuves aussi à faire des donations, pour le salut de l'âme des défunts. Et donc, les fils auraient été un peu inquiets, si on veut, de la manière dont leur mère gérait l'héritage. Donc, on a cette forme de conflit qui permet aussi de voir l'importance des biens et de l'économie, en fait, des biens qui transitent par les femmes pour ensuite être transmis aux générations suivantes. Donc, ça me paraissait être un exemple intéressant de cristallisation des tensions autour des questions économiques pour ouvrir le livre, en plus du fait que c'est quelqu'un qu'on connaît bien sur une très longue durée.
Alors, il faut qu'on avance, mais... Les Vous nous montrez ainsi que le mariage est un moment essentiel, mais il y a aussi, ça rejoint vos travaux de recherche sur les relations adelphiques, donc entre frères et sœurs, on voit que les femmes, même si elles ont le droit de posséder un patrimoine en propre, j'ai raison, leur compte bancaire, voilà, elles sont quand même prises dans un réseau subtil où elles sont quand même toujours sous surveillance, on peut dire comme ça.
Oui. C'est ça. Mais en fait, en réalité, au Moyen-Âge, et du moins dans la période que j'étudie, aucun individu ne dispose de ses biens, notamment de ses biens, de ses domaines, de ses terres, disons, de manière personnelle, individuelle et sans le moindre contrôle du reste de la famille. D'accord. La plupart du temps, même quand c'est un homme qui fait une donation, on a la mention de l'accord de différentes personnes, que ce soit un frère au début de la période, une épouse à partir du 9e siècle, parce que les terres sont considérées comme un bien familial. Et donc, les individus sont pris au sein toujours de ces constellations familiales, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes. Alors, évidemment, les femmes le sont davantage. Elles sont davantage soumises à ces contraintes, d'autant plus que les femmes mariées sont parfois soumises à des contraintes contradictoires entre la famille du mari et la famille d'origine, si on veut. Bien sûr, donc dans ces conflits où elles doivent jouer un rôle de médiatrice, mais parfois prendre une position plutôt qu'une autre. Mais ce n'est pas spécifique aux femmes, finalement, d'être prises dans ce réseau de contraintes qui pèsent sur la manière de gérer ses biens. Alors, on ne parle pas de donner un bijou, de donner un petit quelque chose, hein, mais vraiment pour la gestion des terres, tous les individus sont pris dans ces contraintes-là. Les femmes davantage, et notamment les femmes veuves, qui sont, c'est quelque chose dont je parle dans le dernier chapitre aussi sur les violences, qui sont particulièrement soumises à ces violences économiques, avec des gens qui essayent tout simplement de s'emparer de leurs terres. Ouais. Mais voilà, ça ne pèse pas uniquement sur les femmes, ça pèse sur l'ensemble des individus, puisque les terres appartiennent à la famille.
Sur dans le chapitre mère et maternité, alors vous nous présentez une autrice qui est une aristocrate, elle s'appelle Duoda. Alors y a au départ, il y a toute une histoire, enfin, il y a les conditions d'élaboration de ce texte. Alors, c'est un petit recueil de textes. Vous dites qu'elle dicte à un secrétaire. Vraisemblablement. Alors, c'est très précis, hein, c'est entre le 30 novembre 841 et le 2 février 843, hein, donc on a les dates. Et c'est en fait une espèce de manuel de savoir-vivre qu'elle rédige pour son petit Guillaume, hein, si j'ai bien lu. Hein. Qu'est-ce qu'elle lui dit, cette Madame Duoda?
Alors, elle lui dit énormément de choses, et c'est un manuel de savoir-vivre, mais c'est aussi un manuel politique. Ça, c'est Régine Lejean qui l'a bien montré. C'est un manuel, finalement, où elle lui dit tout ce qu'elle est censée lui transmettre, mais qu'elle ne peut pas lui transmettre puisqu'elle est séparée de lui. Puisque le petit Guillaume est à la cour du roi.
Et il était pris en otage, il y a une histoire de prise d'otage. Enfin,
voilà, mais alors c'est une prise d'otage
qu'on entend
actuellement. Le fils est à la cour du roi et il sert de pion dans la politique très compliquée de cette époque. Oui. Et donc sa mère veut quand même jouer son rôle de mère, c'est-à-dire d'éducatrice. Et encore une fois, on en revient à l'éducation. Elle-même est éduquée pour pouvoir éduquer ses fils. Et elle lui transmet un ensemble de conseils de savoir-vivre qui sont aussi des conseils de survie politique dans un milieu politique assez compliqué, où elle lui dit notamment d'obéir d'abord, bien sûr, à Dieu. Hein, on est quand même toujours dans une société chrétienne. Puis à son père, puis au roi. Le père vient avant le roi dans la liste des allégeances, si on veut, ce qui est assez révélateur. Et elle lui explique aussi finalement comment devenir un jeune homme qui va pouvoir évoluer dans ces situations politiques, à qui se fier, pour qui prier, quels membres de la famille doivent être mis en avant dans ses prières. Elle lui dit aussi, ce qui est très touchant, de prendre soin de son petit frère, puisque Duoda a eu un autre fils qui est parti avec Guillaume, à tel point qu'elle ne sait pas comment ce fils s'appelle, puisqu'il a probablement été baptisé après avoir été séparé de sa mère. Donc, mais elle lui dit, toi qui es à la cour avec ton petit frère, transmets aussi mes conseils à ton petit frère quand il sera en âge de les recevoir. Donc elle lui transmet un ensemble de conseils, voilà, à la fois de savoir-vivre en famille, de savoir-vivre en société, et puis de conseils politiques sur comment être un aristocrate dans les années 840. Ça, c'est extrêmement intéressant sur ce que savent les femmes laïques, sur ce qu'elles transmettent, sur les valeurs finalement dont elles sont en charge.
Oui, c'est un texte qui est en quelque sorte l'ancêtre des textes de Balthazar Gracian, Évidemment, du bréviaire des politiciens qu'on prête à Mazarin bien plus tard. Mais c'est une femme, ça qui est fascinant. Oui. C'est une femme qui écrit ça, quoi. Donc, ce sont des femmes politiques. Hein. Enfin, en tous les cas...
Alors, c'est un cas...
Oui, c'est un cas exceptionnel, d'après vous?
C'est un cas tout à fait exceptionnel.
D'accord,
c'est le seul texte écrit par une femme laïque qu'on possède pour ces siècles-là. Donc, c'est vraiment... C'est pas du tout représentatif, mais c'est intéressant quand même.
Alors, on va rester avec les... Enfin, les femmes, c'est le livre. Mais sur un aspect qui a une dimension tragique, c'est les accouchements, c'est la maternité. Même si vous dites que c'est très compliqué d'avoir des statistiques sur la mortalité en couche, Lisa Bittel évoque entre 10 et 15%, mais vous dites avant l'an 1100. Hein, la question que je voulais vous poser, parce que vous l'abordez, est-ce que la maternité, c'est la seule voie possible pour une femme qui veut pas rentrer au monastère? Par exemple, est-ce qu'une femme peut décider de rester célibataire et d'être chaste pour ne pas encourir le risque potentiel de la mort en couche? Ou est-ce que la pression sociale est telle qu'on ne peut pas avoir de femme célibataire?
Non, a priori, on ne peut pas avoir de femmes célibataires. Les veuves peuvent rester veuves et dans le monde. Mais des femmes célibataires seules, ça n'existe presque pas. Et pour vous donner un exemple précis, il y a 2-3 ans, il y avait une expo, une exposition au musée de Saint-Germain-en-Laye qui va bientôt réexister au musée archéologique du Val d'Oise, qui est une expo dont vous êtes le héros, montée par Bruno Dumézide. Et on peut choisir un personnage féminin. Et à un moment, on doit choisir, comme c'est une exposition où on fait des choix en fait, avec un individu, comme dans un jeu. Si on veut se marier à un tel, ou rester célibataire. Et quand on clique sur rester célibataire, le jeu dit non, ce n'est pas possible, il faut choisir un mari. Et je pense que c'est une très bonne manière de montrer les choses, puisque il n'est pas possible en fait pour une femme de rester célibataire dans le monde. Soit si on veut être célibataire, c'est toujours un choix familial, mais la fille rentre au monastère, soit ce n'est pas possible. Donc non, on ne peut pas vraiment rester célibataire. Ça existe au tout début du christianisme, des formes de vie paramonastique, etc. Mais au Moyen-Âge, ça n'existe pas.
Et alors, c'est pas la figure inversée, mais les cas de stérilité féminine, une femme stérile, est-ce qu'elle est répudiée? Est-ce qu'on estime que sa fonction, qu'est la procréation? Parce que vous dites, les femmes, la procréation, c'est une nécessité sociale. Hein.
Oui.
Donc, une femme qui est stérile, quel est son destin?
Alors, ça dépend. Premier destin, c'est d'aller prier sur le tombeau des saints. Hein. On considère que les saints peuvent être une remédiation.
Enfin, bon, une fois qu'on a fait ça, ça ne marche toujours pas, ça règle pas le problème. Oui.
Il y en a qui sont répudiés a priori, et on n'a pas forcément toujours la précision de la répudiation, mais c'est une possibilité. Et on le sait finalement en creux, puisque l'empereur germanique Henri II et sa femme Cunégonde n'ont pas d'enfants. Et plusieurs textes le louent en disant, même si sa femme était stérile, il ne l'a pas répudiée. Ce qui montre bien qu'en creux, une des attentes sociales derrière, c'est qu'il aurait été possible de la répudier. La difficulté, c'est que l'Église restreint de plus en plus le droit au divorce et aux séparations. À partir du 9e siècle, c'est déjà le cas avant, mais c'est surtout au 9e siècle que ça se cristallise. Et donc, ça peut être protecteur pour les femmes, justement, pour ces femmes stériles, etc. Elles sont moins facilement répudiables à partir du 9e siècle. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe plus du tout. Mais il y a cette forme d'interdiction du divorce qui peut être ambivalente pour les femmes. Mais normalement, ce qu'un aristocrate espère d'une épouse, c'est de pouvoir en avoir des enfants. Et si elle n'a pas d'enfants, c'est un problème.
Oui. On n'a pas le temps d'évoquer le chapitre sur les médiatrices, c'est pourtant vraiment passionnant, et en particulier toute une partie du chapitre qui, moi, m'a rappelé les très belles pages de Philippe Ariès sur l'histoire de la mort en Occident, sur la dimension des médiatrices du rituel de Thanatos, hein, comment on utilise ces femmes, les femmes qui font en quelque sorte, c'est des charons, si je puis dire, enfin des carons, elles font le passage quoi, du monde des vivants au monde des morts, c'est très touchant. Alors on arrive à cette petite pauvre paysanne auvergnate qui est anonyme. Hein. Alors c'est une drôle d'histoire. En fait, c'est à travers la vie bien édifiante de Géraud d'Aurillac que l'abbé de l'abbé de Cluny, la grande abbaye, une des plus grandes de l'époque, hein, un nommé Odon, donc, écrit. Et donc, il écrit la vie de Giraud d'Aurillac, parce que, en fait, c'est quelqu'un qui, si j'ai bien compris, Giraud d'Aurillac, il aurait bien voulu rentrer au monastère, mais il est comte, il a une telle charge mentale, comme on dit, pression sociale, qu'il ne peut pas rentrer au monastère, mais Odon se charge d'en faire un vrai saint laïque, quoi, voilà. Et donc, entre autres, il y a la rencontre avec cette pauvre petite paysanne. Alors, c'est très astucieux ce que vous avez fait, parce que c'est le chapitre 21 du livre sur Giraud d'Aurillac. Mais c'est l'occasion de montrer, c'est une trace écrite, comment on traite les femmes à ce moment-là. Alors, expliquez-nous un petit peu la vie d'une travailleuse de la terre. C'est une femme, évidemment. Alors.
C'est toujours très compliqué, mais c'est la même chose finalement pour les hommes de ces catégories sociales inférieures, puisque quand Odon de Cluny ou quand n'importe quel autre homme, les sources sont souvent écrites par des hommes, même si on a quelques sources écrites par des femmes, quand ces hommes de l'Église parlent des paysans, c'est en général pour donner des histoires édifiantes, morales. Donc ce n'est évidemment, rien n'est un strict reflet de la réalité dans les sources, mais c'est particulièrement vrai pour ces classes inférieures de la population qui les intéressent en tant qu'exemple moral. Et dans le cas de Giraud d'Aurillac, c'est tout à fait vrai, puisqu'il voit cette pauvre femme en train de labourer, et il dit, mais il n'y a pas un homme avec toi pour le faire, et il lui donne une pièce d'argent pour qu'elle puisse payer...
Mais parce qu'elle est veuve.
C'est pas très clair. Disons qu'elle n'a pas de mari à ce moment-là. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'elle est veuve?
Ah oui, c'est ça.
Il me semble que c'est pas très clair.
Oui, mais c'est ça dans le texte.
Et donc, c'est une manière pour Odon de Cluny de dire Giraud d'Aurillac séparait clairement les hommes des femmes, mettait chacun à sa place dans la société. Il y a des hommes, il y a les femmes, il y a les paysans, les aristocrates, et tout le monde est à sa place et les choses fonctionnent correctement. Et c'est donc toujours assez difficile de cerner le rôle de ces femmes dans les communautés paysannes, précisément en raison de ces sources écrites. Alors après, on peut décentrer le regard, utiliser d'autres sources, les sources archéologiques, les sources aussi, comptables, les inventaires, qui permettent de voir la place des femmes dans ces sociétés. Et donc, ce qu'on peut savoir, a priori, c'est que malgré ce qu'en dit Odon de Cluny, une partie des travaux devait être commun. Tout simplement, puisque quand il faut aller faire des champs, on a besoin de tous les bras du village et il serait assez pas très malin en quelque sorte, de ne pas profiter des femmes pour le faire également. Et il semblerait en revanche qu'un certain nombre de travaux soient considérés davantage comme féminins, mais là aussi ça dépend des espaces. Et notamment, on voit très bien dans les îles britanniques tout ce qui relève de la gestion des vaches, du lait, du fromage, ça c'est quelque chose de plutôt féminin. Mais ce sont des grandes tendances plutôt que des catégorisations strictes. Ce qui est en revanche strictement féminin dans ces communautés, mais également dans l'aristocratie, c'est le travail du textile.
D'accord.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui est considéré comme féminin. Les sources même d'ailleurs disent que ce sont des opéra muliebria, des travaux de femmes. C'est vraiment quelque chose de féminin dans les sources et ça revient assez fréquemment. Et donc, c'est le textile pour vêtir, bien sûr, la communauté familiale, paysanne. Et c'est aussi parfois pour vendre un peu de surplus, pour un peu d'argent. Mais c'est également pour payer les rentes aux seigneurs, puisque dans les communautés paysannes, tout est très hiérarchisé. Et on doit payer un certain nombre de rentes et de redevances aux seigneurs, qui sont parfois payées en textile. Ce qui est une manière aussi d'utiliser ce travail des femmes pour pouvoir payer ces redevances qui sont dues en général en nature. Et puis, on a une catégorie particulière qui sont les femmes non libres. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment ça qui est fondamental dans ces sociétés. Et ces femmes non libres semblent avoir une vie assez peu marrante, il faut bien le dire. Semblent avoir une vie assez difficile puisqu'elles sont d'autant plus assujetties, il semblerait, mais là aussi c'est assez difficile à dire, à un ensemble de tâches dans la maison du Seigneur, qu'il soit un Seigneur laïque ou monastique, avec tout ce qu'on peut imaginer de violence que ça recoupe. Donc, on ne peut pas forcément reconstituer dans le détail la vie d'une femme à la campagne, mais on peut avoir quand même un certain nombre d'indices qui nous montrent ce que peut être la vie de ces femmes.
On arrive aux femmes en religion. Alors là, c'est tout à fait frappant dans votre texte, dans le chapitre, parce que vous sortez du strict milieu chrétien. Vous évoquez les femmes musulmanes, les femmes juives, y compris dans des zones de points de contact, on va dire, entre ces religions du livre. Vous évoquez les mariages mixtes dans le califat de Cordoue, dans le royaume Al-Andalus, à partir de 711. Hein, donc, je rappelle, hein, qui va quand même durer de 711 à 1492, hein, jusqu'à la victoire des rois très catholiques d'Espagne, comme on dira. Vous évoquez Hild et Alfled, sont les premières abbesses de Whitby. Là, on a vraiment des femmes puissantes, des femmes fortes. Elles ont rang de seigneur sur des territoires, des propriétés qui peuvent être immenses.
Hein. Oui, puisque les communautés monastiques, qu'elles soient masculines ou féminines, sont en général des seigneurs aussi. C'est-à-dire qu'elles possèdent des terres. Mmh. Et au Moyen-Âge, quand on possède des terres, on possède également des droits sur les personnes qui vivent sur ces terres. Ouais. Et ça, c'est indépendant du genre. Le monastère, qu'il soit masculin ou féminin, possède ce droit sur les personnes et sur les terres. Alors évidemment, quand il s'agit d'un monastère féminin, il y a un ensemble de, en général, d'aides masculines, si on veut. On a l'avoué qui va représenter en justice, par exemple, qui va s'occuper d'un certain nombre de choses judiciaires. Mais enfin, en fin de compte, celle qui gère les terres, c'est l'abbesse, enfin c'est la communauté en tant que telle. Et on a de très beaux exemples, à la fois effectivement en Angleterre, mais on en a aussi en Catalogne, de très grands monastères, ou même dans les Vosges, hein, de très grands monastères féminins qui agissent comme des seigneurs et comme n'importe quel seigneur. Si ce n'est que le seigneur est l'abbesse plutôt que l'abbé, et qu'elle a des représentants masculins, mais c'est quand même elle la seigneuresse, si l'on veut. Donc oui, là, on a tout à fait des situations qui mettent ces femmes dans des positions de pouvoir très claires.
Mais ces femmes abbesses, j'allais dire, elles deviennent abbesses comment? Est-ce que c'est par le haut? Parce que plus tard, on va avoir des cas de sœurs, de princes, hein, ou de hauts dignitaires dans l'aristocratie qui vont arriver à la tête d'une abbaye. Hein. Là, c'est comment? Il n'y a pas un processus démocratique d'élection dans le couvent?
Non. En général, il arrive très souvent que la famille du fondateur du monastère garde une partie de la main sur les élections abbatiales. Ce qui explique que c'est aussi assez souvent la fille du fondateur ou la sœur du fondateur ou une femme de la famille qui exerce le pouvoir dans ces communautés. Et dans ce cas-là, ça peut durer sur plusieurs générations.
Mais elles se reproduisent comment? Enfin, excusez-moi, mais c'est parce que normalement, elles sont pas censées avoir de descendance. On va utiliser des nièces, ou alors elles en ont eu des descendances avant ou... C'est ça.
Alors, ça arrive, mais c'est vraiment le cas au tout début de la période. Ouais. On a le cas en Angleterre de quelques monastères qui sont vraiment où il y a des générations en fait de femmes sur 3 ou 4 générations qui, parce que la mère est devenue abbesse une fois qu'elle était veuve,
donc
sa fille après qui lui succède. Mmh. Ça, c'est vraiment au tout début de la période et plutôt en Angleterre. Et sinon, ensuite, on a beaucoup de cas de succession en fait de la tante à la nièce avec une nièce à qui on donne en général un nom. Spécifique, par exemple le nom de sa tante, et puis on la met au monastère avec sa tante, l'élève. D'accord. On a de très beaux textes, plutôt sur la fin de la période, à la toute fin du 10e siècle et au 11e siècle, qui parlent même de formes de maternité, de substitution hein, pour ces femmes, et qui disent que ces abbesses ont élevé leur nièce comme leur fille, et puis donc elle lui succède très logiquement à la tête de la communauté, ce qui permet de garder le monastère toujours dans l'escadron de la famille.
Oui, il y a un lignage, une forme de lignage, quoi.
Oui, une forme de lignage spirituel, au sein de la famille, tout à fait.
Bon, j'allais dire, on pouvait discuter des heures, parce que c'est passionnant, il faut qu'on arrête. Alors, il faut regarder Birka la Viking, Théodolinde, Nortilde, avec elle porte plainte au concile d'Attigny en 822. Elle est emblématique des femmes vulnérables, mais avec un courage incroyable, parce que elle vient dire voilà qu'elle est victime de violence, quoi. Ça paraît assez fascinant. Il y a 1200 ans, une femme a le courage de faire ça. Voilà. On va terminer par une question qui pourrait nous engager plus loin, mais pourquoi est-ce que à partir à la fin du 11e siècle, au début du 12e et jusqu'à la fin du 15e, c'est-à-dire jusqu'à la fin du Moyen-Âge, pourquoi les choses se transforment pour les femmes? Tout à l'heure, vous étiez un peu dubitatif quand j'ai évoqué une sorte de régression, mais on a un petit peu le sentiment, alors on n'a pas la suite du livre, mais que le statut des femmes n'a pas forcément progressé comme il aurait pu progresser dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe à partir de la fin du 11e pour les femmes?
Alors, il y a plusieurs reconfigurations. On en a déjà parlé tout à l'heure. Hein. Il y a la réforme grégorienne qui change le statut des femmes au sein de la société et dans l'Église. Et puis, ce sont surtout des mouvements de savoir. On a au XIIe siècle, notamment, la redécouverte du philosophe grec Aristote, qui va ouvrir tout le courant scolastique.
Vous le dites, oui, c'est ça.
Ouais. Et ça, c'est... Alors, Aristote n'était pas un grand féministe, c'est le cas de le dire. Il a une vision très négative, en fait, des femmes. Et donc, tout ça va infuser dans l'université. Ouais. L'université qui est un produit donc de cette fin de Moyen-Âge et l'université qui est réservée aux hommes. Les femmes ne peuvent pas, parce que les hommes à l'université sont clairs et les femmes ne peuvent pas être claires.
Donc, on touche à l'éducation. On a dit que c'était une constante. Voilà,
Alors, ce qui ne veut pas dire que les femmes ne sont pas éduquées, il reste des précepteurs, des choses comme ça, mais disons que les centres du savoir ne sont plus les mêmes. Auparavant, les centres du savoir étaient des monastères, qui pouvaient, dans certains cas, être des monastères féminins, et les centres du savoir sont maintenant les universités, qui sont exclusivement masculines. Alors après, il ne faut pas caricaturer non plus, hein, c'est un mouvement de pensée, les femmes ont quand même encore des rôles, etc. Il y a aussi des reconfigurations économiques, avec le passage d'un système majoritaire de douaires, donc possédé en bien propre par la femme, à un système de dot. Donc ça, c'est un des changements, disons économiques. Mais on a aussi d'autres évolutions, comme par exemple le développement des villes. Et là, le développement des villes, ça peut être favorable aux femmes. Hein. Il ne faut pas non plus caricaturer la fin du Moyen-Âge, ce n'est pas du tout mon propos. Mais disons que les villes peuvent être favorables aux femmes, puisqu'on a moins de communautés familiales, par exemple, qui peut être contraignante au sein des villes. Donc il y a tout un ensemble de reconfigurations. Et puis, j'essaye de le dire aussi dans le dernier chapitre, on a des reconfigurations qui tiennent à la nature des sources, où on voit davantage de femmes, tout simplement parce qu'on a davantage de sources. Et donc peut-être on voit des choses différentes, mais qui ne sont pas des choses qui ont changé dans la société, qui sont des choses qui sont représentées différemment dans les sources.
Ben c'est bien, parce que ça montre aussi que l'histoire, c'est aussi une critique des sources en permanence. Voilà. Merci beaucoup, Justine. Et puis, à la vie des femmes au Moyen-Âge, c'est passionnant.
Merci beaucoup, au revoir.